C'est un podcast Vivre FM.
Entre nous, tout simplement, avec Ornella Dampron.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. Alors c'est vrai qu'après quelques jours de vacances, on revient booster à 600 000% pour vous faire découvrir des personnes au parcours de vie singulier, atypique, différent, dans la joie, la bonne humeur, mais surtout dans la bienveillance. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, c'est lundi matin. Alors c'est vrai, vous connaissez un petit peu ma folie pour les fêtes de fin d'année. Eh bien je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans 46 jours exactement, c'est Noël. Noël, ça représente plein de souvenirs, d'enfance. Et quand on parle de souvenirs, si ces souvenirs disparaissaient un jour de notre mémoire, si la maladie nous faisait perdre nos repères de vie et dans le temps aussi, ouais, vous l'aurez compris, nous allons parler d'une maladie qui nous fait peur par le souci de l'oubli, une maladie qu'il faut parler un peu plus. Oui, ce matin, nous allons découvrir une femme qui met cette maladie en avant avec beaucoup de bienveillance. Et vous savez que sur Vivre FM, c'est un mot important pour nous, la bienveillance. Elle va nous raconter son histoire, son parcours et pas les moindres. C'est une heure ensemble d'écoute, de partage, de bienveillance qui nous attend à ses côtés avec Colette Roumanoff. Bonjour Colette.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, vous allez nous parler de votre livre « Alzheimer, une école de bienveillance » aux éditions de La Martinière. Mais avant ça, Colette, vous savez, Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Alors j'ai une habitude en début d'émission de demander à mon invité, en un mot, Colette, c'est quoi votre différence à vous ?
Oh.
Bonne question du lundi matin.
On va dire que à l'arrivée, c'est la bonne humeur, je pense. Voilà, je pense qu'à l'arrivée, c'est l'importance que je mets, que je donne à la bonne humeur. Voilà, je pense que c'est ça la différence.
Voilà, c'est une heure que nous allons passer ensemble dans la joie et la bonne humeur, parce que comme je vous le dis, entre nous, c'est avant tout votre émission. N'oubliez pas aussi de nous partager sur les réseaux sociaux de Vivre FM. Quelle est votre différence à vous ? Allez, on prend une grande inspiration, on attrape bienveillance et amour avec nous et c'est parti pour une heure ensemble. Bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM.
Vous écoutez Entre nous
avec Ornella Dampron.
Mon invitée a une vie pleine de rebondissements, une vie d'artiste. Elle dirige depuis plus de 30 ans une compagnie de théâtre. Elle a été experte économie, journaliste. Elle a écrit des livres, collaboré à l'import de produits indiens avec son époux. Elle a aussi étudié le piano pendant plus de 15 ans. Et puis, c'est vrai que le nom de Roumanoff résonne pour tous avec le sourire d'une femme sur scène qui fait rire son public en étant vraie et sincère. La sincérité, la bienveillance, cette famille. Colette Roumanoff, vous avez écrit ce livre « Alzheimer, une école de la bienveillance » aux éditions de La Martinière. Alors, je suis allée, comme d'habitude, voir mon ami Wikipédia pour comprendre un petit peu mieux le mot « Alzheimer ». Mon ami Wikipédia me dit « Alzheimer est une maladie évolutive dont les symptômes de démence s'aggravent progressivement au fil des ans. Au premier stade, les pertes
alors,
de mémoire... »
Alors, je vous interromps
déjà. Ah voilà, mais j'allais vous dire,
vous
moi avec
déjà,
vos mots, j'ai besoin de savoir.
Le mot de démence, il faut l'enlever de la maladie d'Alzheimer. Ça,
pourquoi
c'est un truc... Ben, je proteste tout le temps, parce que si vous voulez, démence en français, ça veut dire folie dangereuse.
Oui.
Or, la maladie d'Alzheimer n'est pas de la folie et elle n'est pas dangereuse. Donc, quand on prononce le mot démence, les gens, ils ont peur.
Ouais.
Et quand on a peur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est paralysé, on est inquiet, on se fait du souci. On arrête d'être intelligent et d'être présent. Et c'est ça. Et il y a une tellement mauvaise image de cette maladie. Et je suis sûre que la source, c'est le mot démence. Donc, moi, chaque fois que j'entends ce mot... Je me mets en colère. Parce qu'il faut arrêter avec ça. Et vous avez des médecins qui écrivent des fois des livres. Récemment, j'en ai vu un écrit par un médecin. Et ben, comme elle est médecin, elle emploie le mot démence parce que c'est un mot médical. Et médicalement, démence, ça veut dire je sais pas quoi. Enfin, on s'en fiche. Nous, on est français. On comprend le français. Démence, un dément, c'est un fou dangereux. Donc, si on vous dit votre mari ou votre femme, c'est un fou dangereux, ben, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? De prendre la peau d'escampette et c'est tout.
De vous cacher, de vous protéger.
De faire comme ça. Vous n'avez pas du tout envie d'aller vers lui, de lui dire « Alors, comment ça va ?» Hein ? Non, pas du tout.
Non.
Donc, voilà. Donc, déjà ça, le mot démence, il faut le supprimer. Et c'est dans Wikipédia, il faut le supprimer.
Voilà, on va laisser un message à Wikipédia.
Voilà.
Vous pouvez m'expliquer, vous, avec vos mots, la maladie d'Alzheimer ?
C'est une maladie de la gestion de l'information. Il faut être vraiment précis, si vous voulez. La bienveillance, c'est pas un truc vague comme ça, un nuageux, c'est pas du chewing-gum, c'est pas de la chamallow. Il faut être précis. La maladie d'Alzheimer est une maladie de la gestion de l'information qui atteint le cerveau de certaines personnes. Oui. Et ces personnes, avec cette maladie, leur cerveau se déconstruit progressivement, lentement. Il se déconstruit exactement à l'inverse de la manière dont il s'est construit. C'est-à-dire, on va prendre un exemple précis, mettons la lecture. Un malade d'Alzheimer sait lire normalement, il lit, il est capable de lire, mais comme il a perdu ses repères et cette mémoire immédiate, eh bien, il va lire, il peut pas lire un livre parce que dès qu'il a lu un paragraphe, il se rappelle plus ce qu'il a lu. Vous voyez donc, mais, si on l'écoute, il peut vous lire un livre pendant une heure. Donc, si vous voulez, ça change la manière de vivre, mais ça change pas tout. Donc, il peut avoir beaucoup de plaisir à lire, à faire entendre sa voix. Et c'est un exercice tellement simple, tellement facile, qui ne coûte pas cher et qu'on peut faire avec tout le monde. Pourquoi s'en priver, voyez-vous ? Mais personne ne vous le conseille, personne ne vous l'explique. Vous voyez ? Parce que les gens, ils disent « Oh là là, c'est affreux », et puis après, ça s'arrête là. C'est affreux », mais une fois que vous avez dit « c'est affreux », qu'est-ce que vous faites quoi ? Ce matin, j'étais dans un taxi pour venir ici. Je suis hors de taxi, il s'énerve contre les bus. Je lui dis « Mais vous énervez contre les bus, mais vous avez vu tous les bus qui circulent ? À quoi ça rime de s'énerver ? Vous faites du mal ? Je sais, mais je m'énerve quand même. » Je suis désolée, si on sait que ça fait du mal, on continue
s'énerve pas.
Non,
bien évidemment.
On continue pas si on est persuadé. Donc là, il y a des gens qui me disent, voyez, j'explique qu'il faut pas critiquer un malade d'Alzheimer, qu'il faut pas, bien sûr, lui crier dessus, qu'il faut pas s'énerver contre lui, parce que ce malade, il a son état du cerveau, si vous voulez, qui se déconstruit, donc il n'a pas la possibilité de se défendre, il va pas pouvoir argumenter. Si on l'engueule en lui disant, mais je t'ai dit 40 fois où étaient tes chemises, il va pas dire... J'ai la maladie d'Alzheimer, donc je ne peux pas me rappeler où sont mes chemises. Donc, quand tu me cries dessus, ça ne sert à rien. Tu t'énerves, ça te fait du mal, ça me fait du mal aussi. Il ne va pas pouvoir vous dire tout ça, mais il vous l'exprime.
Comment donc, il l'exprime ?
Eh bien, par tout son corps, par tout son être, par son regard, par tout. Si vous voulez, l'expression non-verbale, c'est 90% de la communication. C'est pas le blablabla, c'est un blablabla. Mmh. Mais ce qu'on dit, c'est souvent du blablabla. Mais on exprime parce qu'on est. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut extrêmement faire attention à ce qui se passe. Et nous, dans notre société, on n'est pas du tout formés ni habitués à ça.
Non.
On considère que la bonne humeur, c'est un truc pas intéressant. Hein. Vous n'avez pas les Jeux Olympiques, on ne vous dit pas championnat de bonne humeur. Personne ne fait ça, non. On considère que c'est nul. C'est même pas, ça ne vaut même pas le coup de s'y intéresser. Voilà. Donc, il faut changer complètement de...
Notre
manière de vivre, notre perception. Et justement, c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre en disant que la maladie d'Alzheimer était une école de bienveillance. C'est-à-dire que je suis très sérieuse quand je dis ça. Parce que si vous voulez, moi... Bon, j'étais sûrement bienveillante, je suppose, j'en sais rien, mais bon, pas plus que ça, pas plus qu'autre chose, pas plus que n'importe qui. Mais grâce à cette maladie, j'ai vraiment appris à être bienveillante et de bonne humeur, donc, tous les jours, ce que je ne faisais pas avant. Vous voyez ? J'ai appris. Donc, on peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup avec cette maladie. Parce que la personne, elle est dépourvue de... Elle ne peut plus gérer les informations. Mm-hmm. Donc, par exemple, elle ne veut plus gérer qu'il y a un placard, que dans ce placard, il y a une chemise, qu'elle habite à Paris, et non pas je ne sais pas où. Tout ça, ce sont des choses qui... Comme... Et alors, on arrive assez rapidement à un état qu'on connaît très bien. Mais c'est tabou de le dire à celui de l'enfant.
Ouais.
Parce que l'enfant, il apprend à lire, vous voyez ? Et donc, quand il apprend à lire... Qu'est-ce qui est difficile pour lui ? C'est les mots qui sont très longs, les mots qui sont compliqués. Or, un malade Alzheimer qui désapprend à lire, parce qu'il va désapprendre à lire, même s'il est capable de lire pendant des années, à un moment donné, hop, il va buter sur un mot qui est long. Donc, vous voyez, exactement l'inverse de ce que fait un enfant. Il va buter sur des choses... Par exemple, un enfant qui apprend à s'habiller, il peut très bien enfiler son short par la tête.
Ouais.
Ça fait rigoler tout le monde.
Un adulte, non.
Eh bien, un malade Alzheimer peut très bien enfiler son pantalon par la tête parce qu'il cherche, il ne sait pas où c'est. Vous voyez ? Donc, il faut bien comprendre. Et il suffit de lui dire, eh bien, tu l'enfiles par les pieds. Et il l'enfile par les pieds et tout va bien. Vous voyez ? Mais on n'a pas du tout l'idée même, le soupçon qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut facilement aider quelqu'un à se dépatouiller quand il n'arrive pas à s'habiller. C'est pas compliqué, ça c'est ta chemise, voilà, ça tu l'enfiles comme ça. C'est pas compliqué du tout.
Dans votre livre, vous parlez bien évidemment de votre mari.
Oui.
C'était quoi les premiers signes pour votre époux ?
Eh bien, si vous voulez, le premier signe, il faut bien savoir que c'est les choses abstraites qui sont plus capables d'être gérées.
D'accord.
Donc, par exemple, l'argent. des billets dans sa poche ou des pièces, il peut les gérer encore pendant un certain temps. Mais l'argent sur un compte en banque, non, parce que c'est abstrait.
Oui.
Tout ce qui est abstrait, ça devient on ne peut plus l'attraper. Mais comme un enfant, vous savez, un enfant, vous lui donnez de l'argent pour l'acheter du pain, il va acheter du pain. Vous lui montrez un relevé de banque, il ne peut pas savoir ce que c'est.
Il ne comprend pas. Ça a été ça les premiers signes.
Oui, c'était un relevé de compte en banque dans lequel il me dit, il était extrêmement inquiet, il s'agitait de partout. Il disait, voilà, je suis inquiet, j'ai fait un chèque de 500 euros, je ne sais pas du tout si j'ai de l'argent pour le payer. Donc, il ne pouvait pas savoir. Donc, il voit le relevé, il le regarde, mais il ne le comprend plus. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je me suis dit à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était que la maladie d'Alzheimer, j'avais jamais entendu parler, mais je me suis dit, le neurone qui fait la soustraction, il ne marche plus. Voilà, moi, je me suis dit, c'est ça, la soustraction, n'a rien, il ne peut plus faire une soustraction. Donc, ce n'est pas moi qui vais lui apprendre à faire des soustractions. Hein, je veux dire, c'était quelqu'un d'extrêmement compétent, il avait toutes sortes de qualités, il écrivait des livres, il a dirigé une société, enfin, il faisait plein de trucs. Je ne vais pas lui apprendre à faire une soustraction. Donc, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et à ce moment-là, j'ai eu de la chance. Je me suis dit, j'ai fait machine arrière. Je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas. J'ai vu que ça allait, que tout va bien. Il y a assez d'argent, on va aller prendre le thé. Et voilà, voilà. Et on était voir un neurologue. Voilà. Et le neurologue, il vous dit, ben voilà, c'est pas un AVC, c'est pas une tumeur. Donc, ben voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est quand on n'a pas d'autre explication. Oui.
Ah d'accord.
Eh bien oui, parce que si ce n'est pas un AVC, si ce n'est pas une tumeur au cerveau, et que le cerveau, il ne fonctionne plus, il y a... C'est la maladie d'Alzheimer.
Et on vous laisse ça comme ça, on vous dit juste, bon, bah, c'est la maladie d'Alzheimer, merci,
bon,
au revoir.
Bon, alors, c'est pas, c'est-à-dire que quand on se rend compte de ça, enfin, à l'époque, c'était en 2005, moi, j'étais sur Internet, c'était que des horreurs sans nom qu'il y avait dessus, donc là, on se dit, ça y est, c'est la fin. Ce qui n'est pas vrai, voilà. Mais moi, j'ai mis quand même un certain temps à me rendre compte. Donc, pour moi, le pire, c'était la première année. Parce que la première année, alors que la première année, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en place, qui ne bougent pas, quoi. Mais je m'inquiétais tout le temps, je m'angoissais, je ne savais pas quoi faire, qu'est-ce qui se fait. Et un jour, j'ai crié dessus et je me suis rendu compte que là, c'était une vraie catastrophe.
C'est-à-dire, sa réaction à lui ?
Eh bien, si vous voulez, on se promenait dans le jardin, comme gentiment, je donne un sécateur, je dis tu coupes les chardons, il coupait les chardons, puis il coupait un rosier, voilà, en même temps. Et moi, je me suis énervée.
Mais pourquoi tu fais ça ? Je t'ai pas dit les roses.
Je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, mais je sais que j'ai crié dessus, j'étais furieuse. Et en fait, j'ai manqué là, de comprendre la maladie d'Alzheimer. Parce que la maladie d'Alzheimer, le problème est la confusion. Et ça, personne ne vous l'explique.
Non.
C'est la confusion. C'est-à-dire qu'entre un chardon qui est grand, piquant et vert, comme ça haut, et un rosier qui n'avait pas de rose, donc il était grand, piquant et vert, hein, et bien un malade d'Alzheimer ne fait plus la différence.
Ouais.
Parce que son cerveau ne sait pas faire tous les calculs. Que notre cerveau il fait, vous savez, notre cerveau il calcule, c'est un ordinateur super incroyable qui calcule, vous dit ben ça c'est un micro, ça c'est un verre d'eau, voilà. Mais non, là ça calcule pas. Donc deux choses qui sont côte à côte peuvent se confondre, deux choses qui se ressemblent peuvent se confondre, et il y a un moment donné où le problème devient extrêmement grave. C'est-à-dire que la personne ne reconnaît plus la porte des toilettes. Voilà, par exemple, et donc va confondre une porte et une autre porte. Vous êtes d'accord qu'une porte et une autre porte...
Bon, c'est la même chose. Deux portes blanches l'une à côté de l'autre.
Alors là, si c'est même une porte blanche et pas blanche, il va confondre la porte des toilettes et la porte d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort dehors, il cherche les toilettes, il ne les trouve pas, évidemment. Donc, il continue à marcher. Et on dit, il a fait une fugue. Vous voyez ? Donc, on a une incompréhension complète de qu'est-ce que c'est cette maladie. Les gens ne comprennent pas, alors que c'est tellement simple. Le cerveau se déconstruit. Un enfant de 3 ans, vous imaginez bien que vous n'allez pas le laisser sortir tout seul dehors, vous allez fermer la porte à clé, ou de toute façon, il est trop petit.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il est trop petit pour atteindre le verrou.
Il est trop petit pour pouvoir manipuler la poignée, voyez, alors qu'un adulte, il n'est pas trop petit, il appuie sur la poignée parce que c'est automatique, c'est un truc qu'il sait faire. Donc, il sort dehors, il se retrouve dehors, il cherche les toilettes, il ne les trouve pas. Et ça peut être dramatique, c'est-à-dire que les gens peuvent les retrouver dans des ravins un mois plus tard, voyez, mort. Donc, c'est quand même grave. Donc, moi, je dis, il y a des choses qu'il faut faire qui sont indispensables à faire. Alors, première chose, enlever le gaz, parce que le gaz, on peut l'allumer, oublier de l'éteindre, c'est très dangereux dans une maison.
Oui.
Il faut mettre des plaques à induction. Est-ce que la personne est capable, après, de cuisiner avec des plaques à induction ou pas ? c'est un autre problème, vous voyez, donc c'est pas simple. Si la personne vit seule, évidemment, on peut pas l'enfermer, mais il y a des gens qui le font, qui enferment les gens, toute la journée chez eux.
C'est abominable.
Mais bien sûr, non mais attendez, je raconte ça dans mes bouquins, il y a un bouquin qui s'appelle « L'homme qui tartine une éponge », il y a l'histoire d'une dame qui est enfermée chez elle, même de plusieurs d'ailleurs, toute la journée. Donc après elle, elle appelle un serrurier pour qu'il vienne la délivrer, et le serrurier il comprend pas. Elle a les clés, mais elle a les clés d'en haut, mais elle n'a pas la clé qui est la serrure qui est planquée en bas. Et qui l'enferme.
Voilà. Dans quelques instants, Colette Roumanoff, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre livre « Alzheimer, une école de bienveillance ». On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences, pour pouvoir en parler justement.
Vous écoutez Entre nous
avec Ornella Dampron.
Vivre FM, nous sommes ensemble pendant une heure de découverte et de partage. C'est la deuxième partie de l'émission. Et je suis en compagnie de Colette Roumanoff qui a écrit le livre « Alzheimer, une école de bienveillance » aux éditions de La Martinière. Alors, Colette, juste avant la pause, vous étiez en train de nous dire, voilà, si vous avez une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer à vos côtés, chez vous, il y a des choses impérativement à faire à la maison, notamment, donc on a parlé de retirer le gaz à la maison.
Oui. Et surtout, alors, si vous vivez avec quelqu'un qui a Alzheimer, vous devez mettre un code à votre porte. C'est-à-dire enlever la poignée. Oui. Donc, le code, jamais personne, jamais aucun malade ne peut se rappeler d'un code. C'est impossible, parce que justement, c'est son problème, c'est qu'il ne s'en rappelle pas.
Oui. Hein.
Ça fait partie de la maladie. Et donc, d'ailleurs, dans tous les EHPAD où il y a des gens qui ont Alzheimer, il y a des codes à vos portes. Hein. Mais il faut le faire chez soi aussi, si on veut que la personne reste à la maison et qu'elle ne court pas le risque de partir parce qu'elle cherche les toilettes. Et de se retrouver dehors, à partir du moment où elle ne sait plus revenir, si vous voulez. Il faut, d'un autre côté, il ne faut pas anticiper trop. La personne, au début de sa maladie, elle est capable de sortir, de faire des courses, de rentrer. Enfin, il faut surveiller qu'est-ce qui se passe.
Oui.
Est-ce qu'elle sait revenir? Est-ce qu'elle ne sait pas revenir? À partir du moment où elle ne sait pas revenir, où elle hésite à sortir toute seule, elle ne se sent pas bien, à ce moment-là, c'est le moment de mettre le code. Il y a un moment précis où il faut le mettre. Il ne faut pas le mettre avant, il ne faut pas le mettre après. Et à ce moment-là, l'explication est très simple. Il va dire, mais où est ma clé? Eh bien, avant, tu avais une clé. Maintenant, il n'y a plus de clé. C'est tout. Il ne faut jamais dire, parce que tu as la maladie d'Alzheimer, je dois mettre un code à la... Jamais d'explication, jamais. Parce que tout ce qui est explication, le cerveau ne peut pas le comprendre. Donc, si quelqu'un a une difficulté, par exemple, s'il n'arrive pas à compter jusqu'à 3, vous n'allez pas lui apprendre à compter jusqu'à 3. Vous allez le mettre en échec. Parce que justement, oui, c'est compter jusqu'à 3 ou jusqu'à 20, oui, c'est plus. Si c'est plus, c'est plus. Voilà. C'est comme vous n'allez pas avoir un bébé de 6 mois et lui dire, tiens, je vais t'apprendre les mathématiques, compte jusqu'à 10. Vous n'allez pas faire ça.
Non, non.
Pas possible. Non. Mais Alzheimer est une maladie qui ne se voit pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être très subtil. La maladie ne se voit pas sur la figure de la personne.
Mm-hmm.
Donc il peut donner le change, il peut dire bonjour monsieur, comment allez-vous, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il sait où il va. Donc, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. Qu'on ne connaît pas son adresse, qu'on ne peut pas vivre heureux. Ce sont deux choses très différentes.
Et c'est ça que vous parlez. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi le titre de ce livre, Alzheimer, une école de la bienveillance.
Parce que si vous voulez, quand on vit avec quelqu'un qui a Alzheimer, on se rend compte d'une manière extrêmement précise. C'est précis. Il faut bien savoir qu'il n'y a rien de vague ou de flou là-dedans. C'est précis. On se rend compte que toutes nos réactions ou toutes nos actions ont des conséquences sur l'autre personne qui sont énormes. Vous voyez, par exemple, si on s'énerve, moi donc, je me suis énervée une fois contre Daniel, eh bien, sur le coup, il avait l'air comme ça, penaud, malheureux, il ne se défendait pas, il est incapable de se défendre, quelqu'un qui a Alzheimer ne se défend pas, ou alors des fois, il peut se défendre physiquement, et là, c'est dangereux, ça devient dangereux. Hein. Alors,
c'est-à-dire une attaque physique.
Oui, il peut, parce qu'il n'a plus les mots pour se défendre, il n'a plus les mots, il n'a plus les arguments. Donc, il peut, s'il a une impression d'injustice terrible, il peut faire des gestes d'agressivité.
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qu'on lui a fait avant? Vous voyez, il faut bien à chaque fois, qu'est-ce qu'on lui a fait avant? Il n'y a rien qui tombe du ciel. Donc, Daniel, le lendemain matin au petit déjeuner, me regarde et me dit, je ne me rappelle plus ton prénom. Donc là, moi j'ai compris pourquoi il ne se rappelait plus mon prénom. Parce que je l'avais engueulé la veille. Mais moi, la veille, je l'avais oublié.
Ouais.
Je ne m'en rappelais même plus. Et donc, je me suis dit, oulala, moi, je trouve que c'est payé trop cher. Parce que c'est sûr que je me suis énervée, je me suis laissée aller à l'énervement. Mais si c'est le résultat des courses et qu'il ne se rappelle plus mon prénom, je ne me suis plus jamais énervée contre lui. Jamais, quoi
donc,
qu'il arrive.
Pour vous, et
parce
c'est
que
ça,
c'est
en
trop
fait,
cher
c'était
payé.
C'était une conséquence de
oui,
ce qui s'était
c'était
passé la veille.
C'était une conséquence, mais ce n'était pas pour moi, c'est pour tout le monde, c'est une conséquence. Donc, quand les gens, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens disent, il ne me reconnaît pas. Est-ce que vous le reconnaissez? En général, non. Ah, mais mon mari, c'était pas ça du tout. C'était un type formidable qui faisait ci, qui faisait ça. Ma mère, là, là, c'est une intellectuelle. Nan, nan. Alors, vous la reconnaissez pas. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous reconnaît pas. Comment voulez-vous qu'elle vous reconnaisse? Il faut quand même bien voir que la personne malade, c'est la personne qui est malade. L'autre, elle n'est pas. Les dents, n'est pas malade normalement. Mm-hmm. Donc, c'est pas. Quand vous avez un bébé, vous n'allez pas lui dire c'est à toi de préparer ton biberon. Vous pourriez pas le faire.
Non.
Et bien là, on est capable, avec quelqu'un qui a Alzheimer, de lui faire faire des trucs épouvantables. Alors, il y a des gens qui torturent les gens qui ont Alzheimer avec des albums photos. Rappelle-toi là, il y avait machin. Mais c'est une idiotie, c'est une torture, c'est une bêtise. Les gens, ils sont en échec. Il faut leur fiche la paix avec les photos. Soit ils se reconnaissent, soit ils se reconnaissent pas. Mais on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Les souvenirs, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant. Là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie aujourd'hui? Comment on la vit? Voilà. Il faut savoir aussi autre chose, dans les choses positives, c'est que tout ce qui est physique, tout ce qui est à rapport avec du sport, fait énormément de bien à la personne. D'abord, ça lui permet de se sentir normal. Bon, aller jouer au tennis avec quelqu'un qui l'a déjà fait, un cours de tennis, vous avez un filet au milieu, vous avez un de chaque côté, il y a des balles qui passent. C'est d'une simplicité désarmante. Jouer au ping-pong, c'est encore plus simple et plus facile. Les tables sont plus petites.
Oui.
Et on peut avoir ça chez soi, une table de ping-pong. Et quelqu'un qui a joué au ping-pong, il peut jouer au ping-pong jusqu'à la fin. Et alors, ce qui est étonnant, c'est ce qu'a fait mon mari, c'est que jusqu'à la fin, sa mémoire de ping-pong était rapide. Jamais le ping-pong n'a ralenti. Alors que toutes les autres activités sont à la fin, tout se ralentit. Tout se ralentit. Alors, mais le ping-pong, il suffisait de le mettre... de faire le bruit de la balle, même ping-pong, ça ne voulait plus rien dire, le bruit de la balle sur la table, la raquette dans la main, et je toque, il envoie les balles dans les coins à toute vitesse, voilà. Donc, ça ne s'est jamais enlevé, ça. Il est toujours resté...
Donc, ça, c'est quand on a une personne atteinte de maladie d'Alzheimer proche de nous, si on est aidant, le sport qu'il a pu tous les sports
les
sont importants.
Les la marche. Si vous voulez, souvent, les gens disent, ouais, la nuit, c'est la vie déambule, mais attendez, vous restez enfermé chez vous toute la journée. Quand vous allez vous coucher le soir, vous avez envie de bouger. C'est pas possible.
Bien
hein
sûr.
Bon, et ben quelqu'un qui est enfermé chez lui toute la journée ou qu'on colle devant une télé qui ne l'intéresse pas, et ben il déambule. Bon, il déambule pourquoi? Parce qu'il ne marche pas. Mon mari, il marchait deux heures le matin, 2 heures l'après-midi, tous les jours. Ah ben
oui.
Et ben 8 heures, il s'endormait très bien.
Ah bah oui.
Ah ben
on
oui.
A,
si y a... La bienveillance, c'est pas quelque chose de vague. C'est pas des bons sentiments. C'est pas de l'amour, comme les gens ils disent. Non, l'amour, moi, c'est un mot que je n'emploie jamais. La bienveillance, c'est véritablement répondre aux besoins d'une personne. Pour ça, il faut savoir quel est son besoin. Et le problème dans cette maladie d'Alzheimer, c'est que tout est caché sous la maladie. Tout a disparu sous la maladie. On a l'impression que c'est plus une personne, qu'elle n'a plus rien. Elle a envie de s'amuser, elle a envie de sortir, elle a envie de rigoler, elle a envie de tas de bonnes choses. Elle n'a pas du tout envie de rester enfermée, les bras croisés toute la journée, attendre que ça se passe. Pas du tout. Personne n'a envie de ça.
Bien sûr.
Voilà. Alors souvent, ces gens-là, on les enferme. Et c'est ça qui est dramatique. Et moi, je dis, il faudrait inventer un nouveau métier qui s'appellerait promeneur de malades Alzheimer.
On viendrait prendre les personnes chez elles.
Chez elles ou dans un EHPAD, il faut les sortir, les amener dehors, dans la rue, dans la ville, dans le village, dans je ne sais pas où. Les amener au cinéma. C'est extraordinaire. Par exemple, on peut amener un malade au cinéma, voir le même film 15 fois de suite. Mon mari, il a vu 15 fois Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il adorait ce film. Et ben, chaque fois qu'il le voyait, il était très content. Il ne se rappelait jamais l'histoire, mais il trouvait que les gens étaient sympas. Il était ravi chaque fois qu'il le voyait. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a
c'est
aussi un truc qui est super
bonheur,
bien.
Ouais.
C'est les documentaires animaliers de Arte. Ça, c'est super bien. Par contre, tous les films violents, où il y a de la vie, et là, il y en a plein, où il y a des meurtres, des machins, du sexe, de la violence,
ça, non.
C'est interdit. Parce que ça perturbe énormément. Et je sais qu'à un moment donné, moi, je ne faisais pas attention. On regardait les informations. Il y avait les bombardements de Gaza.
Ouais.
Donc, il était à côté de moi, il a regardé. Et bien, comme il avait vécu la guerre... D'un
ça
seul coup,
rappelé.
Il se réveille, il a fait comme un enfant, il a fait des cauchemars. Vous savez, les enfants, ils font des cauchemars.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, il a fait des cauchemars en croyant qu'il y avait les Allemands qui étaient revenus, qu'il y avait la guerre et tout ça. Donc, j'ai supprimé les informations. Les informations, c'est plein de violence. On ne s'en rend pas compte, nous, l'habitude.
Non. Ben non, on ne s'en rend pas
vaccinés.
Compte parce que, oui,
et oui mais
on
là,
sait qu'en regardant la télé, c'est ce qui va se passer.
La sensibilité, elle est très, très grande. Elle est vraiment... Il y a beaucoup de fraîcheur aussi, il y a beaucoup d'émerveillement. Donc, des fois, il disait... Ah là là, mais où t'as trouvé tout ça? Tout ça, c'était quoi? Un pot de confiture et le café sur la table. Mais comment t'as fait? Mais alors? Mais est-ce que tu es sûr que t'as assez d'argent pour tout ça? Vous voyez? Donc il y a des moments d'émerveillement, il y a des moments. Alors les gens qui enferment les malades d'Alzheimer, ils perdent vraiment des occasions de bonheur qui sont vraiment loupées. Hein.
Mais est-ce qu'il y a il arrive à un moment où la maladie prend trop le pas et on ne peut pas garder la personne chez
nous? Ça arrive jamais. Si la relation est suffisamment bonne affectivement entre les personnes et si on répond aux besoins du malade au fur et à mesure que ce besoin se présente. Par exemple, il y a un moment précis où il faut mettre des protections dans la nuit d'abord. Ça arrive d'abord la nuit. Hein, mais vous savez, c'est l'inverse d'un enfant. Vous voyez, un enfant, voilà, il met des couches quand il est bébé. Et puis après, il a des couches que la nuit, mais pas le jour. Vous voyez, c'est la même chose, mais c'est en sens inverse. Voilà. Ouais. Donc, il y a un moment donné précis. Et moi, je sais que j'ai un petit peu trop attendu avant de mettre des protections le jour. Donc, il s'est plusieurs fois trouvé dans la rue avec une envie d'uriner qu'il ne pouvait pas contrôler, avec il n'y avait pas de café dans le coin. Les cafés, pour ça, sont hyper sympas. On pouvait rentrer n'importe quel café, utiliser les toilettes. Ça marche très bien. Mais là, on a pu se trouver en panne. Et donc, c'était pour lui extrêmement désagréable de se retrouver mouillé. Donc, j'ai un petit peu trop attendu. Mais bon, après, il faut s'ajuster. Des fois, on s'ajuste plus ou moins vite et plus ou moins correctement. Mais il y a un moment précis où il faut qu'il soit tranquille de ce côté-là. Qu'il n'ait pas l'impression qu'il a envie d'uriner. Puis que...
Oui, qu'ils se sentent libres, en fait.
Voilà, qu'ils se sentent libres, tout à fait. Donc, il faut répondre, si on répond à tous les besoins au fur et à mesure qui arrivent, et si vous voulez, c'est plus facile de s'occuper. Moi, j'ai trouvé que c'était de plus en plus facile de s'occuper de lui. Moi, le truc le plus dur, c'était la première année. Je ne savais pas quoi faire, j'étais perdue, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, pas faire, je ne comprenais rien.
Mais c'est quelqu'un qui vous a guidé ou vous êtes laissé guider vous-même par ce
qui se passait? Mais j'ai regardé ce qui se passait. Ouais. Et quand j'ai, par exemple, ça s'est passé, cette histoire où je me suis énervée, le lendemain matin, ça ne rappelait plus mon prénom, j'ai jamais oublié ça. Vous voyez? Donc, ce qui apprend, c'est qu'on fait des erreurs. Donc, ça, c'était une erreur. Et ben, du coup, je ne la refais pas. Vous voyez? Alors, après, il y a des gens qui disent oui, mais moi, je m'énerve quand même. Bon, ben, après, si vous voulez vous énerver, énervez-vous. Mais le résultat des courses, après, vous allez voir que ça va vous coûter cher si vous voulez. Parce que, ou alors vous en fichez, vous dites, bah, tant pis, mon mari, je le jette, je l'envoie balader. Ça, tous les choix sont possibles, tous les choix sont respectables. Mm-hmm. Après, on fait comme on veut. Mais il faut savoir que si on veut vivre agréablement une vie sympathique, eh ben, on est obligé de ne pas s'énerver. Et du coup, vous savez que c'est extrêmement intéressant parce qu'on ne peut plus s'énerver contre personne. Et ça, c'est quand même assez génial.
C'est bon pour soi, en tout cas.
C'est très bon pour soi. C'est très bon.
Colette Roumanoff, vous êtes avec nous aujourd'hui jusqu'à 11h. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
Vous écoutez Entre nous
avec Ornella Dampron.
Vivre FM, nous sommes à la troisième partie de notre émission Entre nous, une heure de partage avec tous les jours des invités au parcours de vie différents. En début d'émission, je vous ai posé une question. Quelle est votre différence à vous? Vous nous le dites sur la page Facebook ou Instagram de Vivre FM. C'est important de savoir quelle est votre différence. Aujourd'hui, c'est l'émission de Colette Roumanoff qui est auteure du livre Alzheimer, une école de bienveillance aux éditions de La Martinière. Alors Colette, tout à l'heure justement, et là entre la pause, on était en train de parler, je vous demandais justement le fait de arriver à un moment, il y a des choses qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne peut plus faire parce qu'elle met sa vie en danger aussi. On parlait justement de, la voiture, c'est plus possible, on retire les clés. Comment la personne va le vivre? Et comment nous on le vit?
Alors ça, c'est une question qui est très délicate. Je pense que c'est presque la question la plus difficile à résoudre, surtout par rapport aux hommes qui sont souvent identifiés à leur voiture. C'est vraiment très difficile. Alors souvent, les gens arrivent à se mettre dans des situations extrêmement dramatiques. Il faut savoir que quand quelqu'un prend l'autoroute en sens inverse, c'est qu'il a la maladie d'Alzheimer. Donc c'est dangereux pour lui, mais pour les autres aussi.
Ouais.
Donc il faut bien voir ça. Donc il y a des gens qui font... Alors on est autorisé à ruser, n'est-ce pas, dans ce genre de choses. Donc moi j'ai plein de cas, des histoires par exemple de la femme qui avait dévissé le carburateur ou je sais pas quoi dans la voiture, enfin bon. Mais l'autre s'en est aperçu et il a été chercher le garagiste et le garagiste a réparé sa voiture et résultat des courses, deux morts. Voilà. Alors, ah oui, non mais c'est pas des choses... simples, c'est des choses graves.
Ah oui.
Donc, il y a beaucoup de choses qui sont graves dans la maladie d'Alzheimer. C'est pas, il ne faut pas rigoler avec ça. La bienveillance est une chose précise. Donc, si vous voulez, il y a quand même des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Donc là, j'ai eu par exemple, quelqu'un m'a écrit il n'y a pas très longtemps, une dame, elle a cru bien faire, elle a mis sa voiture pour bloquer celle de son mari. Donc, il ne pouvait pas la sortir, elle était coincée. Bon. Et bien, un jour, il a pris une bûche et il s'est mis à taper sur la voiture de sa femme. Bon, pour essayer de, enfin, décoincer sa voiture. Du coup, elle a appelé les pompiers, elle a appelé la police. L'autre, il s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Après, c'est que des horreurs, la suite. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui a été très mal anticipé. Alors, il y a des gens qui font des trucs encore pires. Ils vont à la préfecture de police, ils demandent qu'on confisque le permis de conduire et la voiture de la personne. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui est un malade d'Alzheimer tout seul chez lui. On sonne, c'est qui? Les gendarmes. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils viennent lui prendre sa voiture. Eh bien, alors, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Parce que moi, je ne raconte que l'histoire vraie que m'a racontée une neurologue. Eh bien, ce monsieur, il a mordu à la cheville une gendarmette. Pourquoi? Parce qu'il était plaqué au sol par les gendarmes. Vous voyez? Et donc, il a failli faire de la prison, en plus. Mais de toute façon, après un traumatisme pareil, les gens qui ont Alzheimer sont psychologiquement très fragiles.
C'est ce que j'allais vous demander.
Ils sont psychologiquement très fragiles. Il suffit de les regarder de travers, de les regarder avec mépris, de leur envoyer des petites ondes négatives. Voilà, là, pauvre mec, est-ce qu'il est vraiment pas... Hein, et de ce genre de trucs, pour les blesser très prodigieusement. Alors là, vous vous rendez compte, des gendarmes qui se mettent pour lui, c'est horrible. Après, sa vie est foutue, littéralement foutue. C'est-à-dire que toute son indépendance, tout ce qui lui restait de capacité, disparaît. Alors, pour dans cet exemple-là, mon mari, lui, il a fait 48 heures d'hôpital. C'est une lettre qui circule sur Internet depuis 2013, hein, sur la prise en charge des malades d'Alzheimer à l'hôpital. Il n'y a rien qui est changé. Personne ne sait les prendre en charge. Donc le résultat des courses, c'est qu'il a été en plus hospitalisé pour des prunes, parce qu'il n'avait rien du tout qu'il fallait l'hospitaliser. C'était une erreur médicale. 48 heures d'hôpital. Il a été attaché. Et il a été sédaté avec une drogue d'une violence telle que moi, quand je l'ai récupéré, j'ai dit « on dirait qu'il est drogué ». Mais on ne s'était pas « on dirait ». Il était drogué. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer que c'était des choses qu'on faisait à l'hôpital. Et donc, il a perdu toute son autonomie en 48 heures. Il n'a jamais pu ressortir tout seul de chez lui et rentrer. C'était fini. Il y avait toutes sortes d'activités qu'il était capable de faire seul et c'était terminé. Il n'a plus jamais su répondre au téléphone. Enfin, il a perdu.
Comme, en fait, si ces personnes atteintes d'Alzheimer, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, quand il y a un gros choc psychologique,
ça les détruit,
encore plus.
Complètement. Parce que le cerveau, si vous voulez, nous, quand on est stressé, notre cerveau, il cherche des solutions. Et eux, ils ne peuvent pas gérer le stress. Donc, ils ne sont pas capables de trouver la moindre petite début d'une solution de quoi que ce soit. Ils ne sont pas capables. Donc, ils sont détruits. Voilà. Alors, je vais aller maintenant dans le sens positif.
Oui.
Donc, moi, comment je me suis débrouillée, hein, comme pour faire un... Eh bien, moi, j'ai dit un jour, hein, j'ai acheté une nouvelle voiture. Il avait eu un petit accident, il s'est accroché un tout petit peu. Je dis, ben, la voiture au garage, elle n'est jamais revenue du garage. Et moi, j'ai acheté une nouvelle voiture qui était à conduite automatique. Et je dis, tu ne peux pas la conduire parce que tu ne sais pas conduire à la conduite automatique. Donc, c'est ma voiture. Eh bien, où veux-tu aller? Je t'accompagne. Voilà. Il ne faut pas que la personne se sente prisonnière. Tu as besoin de faire les courses? Eh bien, écoute, je fais les courses avec toi ou quelqu'un d'autre doit venir faire les courses ou je ne sais pas quoi. Enfin, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas laisser la personne en échec. Et ensuite, il est très possible de la convaincre, la personne. De la convaincre. Donc, moi, j'ai rencontré, par exemple, une psychologue qui travaille près d'Avignon, qui est une amie, et elle me dit, moi, les malades, je parle avec eux, et petit à petit, j'arrive à les convaincre eux-mêmes d'arrêter de conduire. C'est encore le plus simple. Donc, il faut juste tranquillement leur dire, voilà, vous faites ci, vous faites ça, tranquillement, mais on peut remplacer cette conduite que vous aviez par autre chose, aller faire quelque chose d'autre. Et il faut trouver d'autres activités qui le passionnent, qui l'intéressent. Il ne faut pas qu'il se sente brimé, si vous voulez. Mais sinon, c'est un problème, c'est le plus difficile de tous les problèmes à résoudre. Alors, souvent, les gens, ils disent, ah ben voilà, l'ordonnance du médecin, tu n'as pas le droit de conduire. Mais c'est absurde, si vous voulez. Ça ne convainc pas les gens.
Oui.
Vous voyez? Donc, même, souvent, la ruse est le meilleur truc. C'est changer de voiture, autre chose.
Des petits coups de passe-passe, quoi.
Quoi ?
Des petits coups de passe-passe.
Trouver comment on se sort de là, mais il faut vraiment s'en sortir, et s'en sortir le mieux possible, surtout en installant éventuellement d'autres trucs. On va jouer au tennis, on va faire autre chose, on fait des trucs sympas, on va rigoler, enfin, pour pas que la personne se sente brimée. Et maintenant, c'est moi ton chauffeur. Moi, je disais à mon mari, c'est moi ton chauffeur. Ben voilà, c'est un chauffeur, c'est moi. Voilà, c'est tout. Voilà.
C'est encore mieux.
Voilà, t'as un chauffeur, c'est moi. Voilà.
Bon. Est-ce que c'est dû à cette maladie que vous avez, on peut peut-être dire comme ça, cultivé cette bonne humeur que vous amenez dès le matin là dans les studios de Vivre FM?
Si vous voulez, je me suis rendu compte que si moi je suis de mauvaise humeur, le malade d'Alzheimer qu'à côté de moi, il capte ce que je sens, et c'est des neurones miroirs. Il faut savoir qu'ils sont là, ces neurones miroirs. Comme chez les enfants. Vous approchez un enfant, vous êtes de mauvaise humeur, vous allez voir l'enfant, il tourne de l'œil. Enfin, voyez. Donc c'est ça qui est interdit dans notre société. C'est interdit de faire ce rapprochement entre un malade d'Alzheimer et un enfant. Alors pourquoi c'est interdit? J'aimerais qu'on m'explique. C'est absurde parce que il y a des tas de gens qui pourraient s'en sortir tellement mieux s'ils avaient juste cette simple explication là. Voyez. Bon. Encore qu'il y a des gens qui ne savent pas y faire avec les enfants aussi, donc ça c'est pareil.
Non, mais... ça c'est encore. Non, oui, non, mais c'est vrai.
Mais c'est la même chose. Les enfants c'est pareil. Il faut les respecter. Il faut comprendre ce qu'ils ont besoin. Il faut pas. Vous savez, vous avez un petit môme par exemple qui se roule par terre et on dit arrête tes caprices. Oh, il fait une crise d'appendicite. Est-ce que c'est lui qui va dire papa, maman, l'appendicite est une urgence médicale. Il faut absolument m'amener à l'hôpital tout de suite.
Non, non.
C'est pas lui qui va dire ça. C'est aux parents de trouver. Et bien pareil, un malade d'Alzheimer, il peut avoir toutes sortes. Il peut avoir aussi une crise d'appendicite ou n'importe quoi d'autre. Mais il ne saura pas dire où c'est, parce qu'il n'a pas les repères à l'intérieur du corps. Il faut bien voir que les repères sont perdus à l'extérieur, ils sont perdus à l'intérieur.
L'intérieur aussi.
Il peut avoir donc, moi, c'était ce qui m'est arrivé, je raconte ça dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, il a eu une rage de dents, une dent de sagesse qui est entièrement cariée et pourrie, mais moi je ne le savais pas. Et par contre, lui non plus.
Il n'arrivait pas à dire la douleur vient de ma bouche.
Il ne peut pas le dire, donc il s'énerve, il fait des trucs bizarres. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et que je me dis, mais c'est quoi? On ne sait pas. Ouais. Il faut vraiment appeler Sherlock Holmes. Il faut regarder.
Vous êtes devenu Sherlock Holmes.
Eh ben oui, il faut, c'est indispensable.
Et c'est là où vous avez trouvé, vous avez dit, bon, on va...
Non, c'est juste, à un moment donné, il a fait comme ça, en train de manger. J'ai dit, oula, c'est comme quelqu'un qui c'est un geste réflexe d'une douleur dedans.
Ouais.
Donc on a été voir le dentiste. Et la dentiste, elle me dit, mais madame, mais sa dent de sagesse, elle est complètement pourrie, elle est cariée. Je dis, mais comment vous pouvez le laisser dans cet état-là? Mais moi, je ne savais pas qu'il avait une dent de sagesse, d'une part. Je ne savais pas qu'elle était cariée, je ne savais rien. Parce qu'il l'avait...
Il ne l'avait jamais
non,
dit,
non, mais à un moment donné, le nerf a dû être touché et ça a dû une rage de dents horrible. Mais il ne savait pas du tout où c'était ni quoi faire.
Ce matin, vous êtes venu, vous m'avez ramené un mail d'une personne qui vous a écrit, et vous avez beaucoup de personnes qui vous écrivent parce que vous avez un blog Bien Vivre avec Alzheimer.com.
Voilà.
Vous répondez à toutes les personnes qui vous envoient des
oui,
mails.
Oui, de toute façon, les gens peuvent mettre des messages sur ce blog, moi je réponds. Et ensuite, dans ce blog, il y a énormément de choses et c'est gratuit. Donc vous vous inscrivez dessus, c'est gratuit, vous avez plein d'astuces, plein de choses.
On apprend beaucoup.
Oh, bien sûr, il y a énormément de choses parce que j'écris ce blog, il date de 2014.
Ouais.
L'année où on a créé La Confusionnite, c'est une pièce de théâtre qui parle de la maladie d'Alzheimer et qui est très drôle parce que tout le monde rit, mais on rit beaucoup des autres, pas forcément de celui qui a Alzheimer, c'est
bien sûr.
Autres qui se font rire parce qu'on se rend compte qu'ils sont pas du tout en face des bonnes ils sont pas du tout dans la bonne truc, mais on montre des scènes où ça se passe bien et des scènes où ça se passe mal et pourquoi, comment, et donc c'est une pièce à la fois drôle et pédagogique qui s'appelle La Confusionnite.
Votre but, c'est un petit peu, finalement, de pouvoir avoir montré aux gens, à tout le monde,
de partager ce qui vous est arrivé. Moi, j'ai galéré beaucoup. Hein,
ouais.
Et je trouve que c'est trop dommage parce que je suis partie avec des idées fausses sur la maladie. Et après beaucoup d'expériences que j'ai eues avec mon mari. Et ensuite, moi, depuis 2010, je fais des ateliers de théâtre. Parce que je suis metteur en scène, j'ai une compagnie de théâtre. Je fais des ateliers de théâtre pour les aidants et les soignants. Parce que je me suis rendu compte que, si vous voulez, des fois, on me demande de faire des conférences, donc je parle. Donc les gens ont du mal à imaginer, si vous voulez, comment sont les relations, comment on peut le faire concrètement dans la vie. Et donc, dans ces ateliers théâtre, je fais faire des improvisations de différents ordres, hein, n'est-ce pas? Et à un moment donné, je dis, voilà, ça, cette personne est malade, l'autre vient lui rendre visite, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et je donne aux gens plein de perches. Et j'ai fait ça notamment, je fais ça beaucoup avec Audience, qui est la maison de, oui. Des arts dans le spectacle. Donc, d'ailleurs, j'ai un atelier la semaine prochaine à Paris. Je fais 2 séances de 3 heures, qui n'est quand même pas grand-chose. 2 séances de 3 heures, attendez, c'est pas dur. Hein.
Ouais, ouais.
Bon, et là-dessus, ça change la relation des gens avec leurs malades. Et après, on fait, un an plus tard, on fait un rappel de ces gens et qui racontent leurs expériences. Et moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Je suis la première surprise. C'est pour ça que je continue, parce que je me dis, attendez...
On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin.
C'est trop simple.
C'est pas possible.
C'est trop facile, quoi. Pourquoi se priver de ça ? C'est trop facile, quoi.
Colette, on peut vous suivre. En tout cas, on peut aller voir sur votre blog bienvivreavecalzheimer.com et poser toutes les questions. Et puis, on rappelle votre livre, Alzheimer, une école de bienveillance aux éditions de La Martinière, est en vente partout. Colette, c'est l'heure de nous dire au revoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à mon réalisateur Yann. Entre nous se termine dans le savoir et la bienveillance. Merci beaucoup, Colette, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.